effectivement, donc, sous le plan médico-légal, on est en permanence dans des situations d'évaluation, d'orientation vers des stratégies thérapeutiques pour des victimes d'agression. Et finalement, il y a l'évaluation du retentissement, il y a le problème de la personnalité antérieure dans le médico-légal, la crédibilité, que j'aborderai peut-être pas aujourd'hui, et puis les stratégies thérapeutiques avec l'évaluation après la thérapie. Alors le fil conducteur sera aussi le vécu du thérapeute par rapport à ces situations de victimes d'agression, puisque finalement, dans notre consultation, on a à la fois un pôle victimologie où on voit un grand nombre de victimes d'agression et un pôle de prise en charge des auteurs, donc où on a la plus grosse consultation de France au sujet en obligation de soins du côté des agresseurs sexuels et aussi des violences conjugales et violences familiales. Alors finalement, je trouve que historiquement, pour les psys, on a quand même une théorisation assez pertinente un peu du traumatisme qui est donné par la psychanalyse, mais d'une certaine manière, finalement, je pense que le concept de résilience était un peu nécessaire comme une antidote finalement, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais à une dimension parfois un peu fataliste, un petit peu du discours sur les éléments traumatiques. Alors je vais essayer de balayer des éléments tout à fait classiques pour montrer comment on peut s'inspirer des variations un peu de la symptomatologie clinique pour un certain nombre de prises en charge. Alors, où est-ce que le bouton arrive ? Voilà. Alors, le but de ce premier transparent, ce n'est pas de citer les choses que vous connaissez bien. Donc, voilà un certain nombre de symptômes. Je vais prendre comme guide de description l'adolescente victime de son père, d'un père incestueux. Et finalement, ce n'est pas la variété de cette symptomatologie qui m'intéresse, mais finalement le fait qu'elle est extrêmement variable d'un sujet à l'autre. Donc, première inspiration un peu pour les évaluateurs comme pour les cliniciens, on voit finalement des victimes qui ont des dépressions subchroniques, on voit aussi des victimes qui n'ont aucun symptôme de l'ordre du traumatisme clinique, quelques semaines après une agression sexuelle de longue durée par leur père qui est en prison. Donc finalement, que penser de la variabilité, de l'impact finalement de la symptomatologie clinique en fonction des sujets? Alors bien sûr, ça donne l'idée que les gens sont plus ou moins fragiles, plus ou moins résilients, mais surtout, ça donne l'idée un petit peu de stratégies thérapeutiques diverses. Alors effectivement, il y a les stratégies analytiques, les stratégies cognitivo-comportemental, mais aussi il y a les stratégies individuelles, les stratégies d'entretien mère-enfant, il y a l'entretien de couple et il y a l'entretien de groupe aussi. Et en ce qui nous concerne, on oriente assez systématiquement vers des techniques de groupe les victimes qui ont un passé de suivi d'une certaine durée individuelle, mais dont la symptomatologie reste peu évolutive. Il y a une pertinence un petit peu de la technique de groupe qui peut être parallèle à une technique individuelle avec des éléments que je vais développer chemin faisant. Alors, en transition, finalement, avec cette grande variation dans la symptomatologie, surtout dans une consultation spécialisée où on voit nombre de victimes, il y a un deuxième élément qui fera transition vers le deuxième transparent sur le traumatisme psychique, c'est au fond le vécu affectif qui est extrêmement différent des victimes par rapport à l'agresseur. Toujours dans le type de description que j'ai choisi, l'adolescente victime de son père incestueux, on voit trois types de vécu affectif. On en parlait donc tout à l'heure midi. Il y a des victimes qui désinvestissent leur père, donc leur vécu, ce n'est plus mon père, je ne l'aime plus, il n'existe plus, donc c'est le désinvestissement du père. Il y a un deuxième groupe de victimes qui disent finalement, je ne sais pas ce que j'en pense. Ça dépend ce qu'il dit. Je voudrais le voir. Je voudrais voir s'il reconnaît. Je voudrais voir qu'est-ce qu'il dit. Je voudrais voir s'il s'explique. Et là, je fais un petit arrêt image, parce qu'en France, et je me tourne vers le juge, on a souvent une culture de séparation des protagonistes, qui est relativement systématique. Alors, elle est pertinente avec les gens du groupe 1, mais au fond, ce type de victime que j'appelle barbouillé, qui ne sait pas où elle en est un petit peu avec son père, finalement a besoin de la confrontation a besoin de voir ce qu'il va dire. Et vous savez qu'à un moment donné, un certain nombre de juges ont posé la question, est-ce que la victime peut supporter la confrontation? Alors évidemment, c'est une bonne question, mais la réponse est extrêmement variable. On pourrait dire d'ailleurs qu'il ne faut pas être trop maternant avec les victimes, parce que si on veut les protéger trop fort de la confrontation, qu'est-ce que ça signifie des adultes professionnels qui accompagnent la victime? C'est que finalement, ça nous semble atroce. Or, finalement, est-ce qu'un des défis d'être victime, ce n'est pas de se confronter finalement à ce qui s'est passé? Et est-ce qu'une des causes finalement de la cristallisation parfois de la situation traumatique, c'est l'impossibilité de la confrontation? Donc la confrontation, finalement, elle est parfois difficile pour le contre-transfert du professionnel, mais on peut se demander si elle est bien menée, elle n'est pas souvent nécessaire à l'évolution de certaines victimes, mais s'il ne faut pas confondre, et moi j'ai aussi cette situation, puisque je suis souvent aux assises, l'émotion momentanée d'une victime qui va effectivement toujours être ébranlée en situation de confrontation, et le pronostic à long terme, qui est la métabolisation à long terme du traumatisme. Donc est-ce qu'on n'est pas trop maternant avec les victimes? Est-ce que cette précaution, on va dire trop tardive d'ailleurs, d'après coup, n'est pas un des éléments qui fait que certaines victimes ne peuvent pas sortir un petit peu de la digestion de la situation traumatique? Dit autrement même, est-ce que finalement, une des manières de se dégager du traumatisme, c'est de se confronter, alors peut-être pas n'importe de quand, mais je vois souvent dans les pratiques des évitements de la confrontation avec l'agresseur. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelque chose plus intéressant, c'est le traumatisme psychique. Parce qu'effectivement, là, toutes les victimes ont un traumatisme psychique, même si toutes n'ont pas un traumatisme clinique. Mais là aussi, l'écoute d'un nombre de victimes est extrêmement intéressante. Par exemple, la culpabilité subjective que beaucoup ont signalée, elle n'est pas présente chez tous ni chez toutes. Il y a certes beaucoup de victimes qui ont une culpabilité subjective, mais il y a des victimes qui d'emblée n'ont aucune culpabilité subjective. Donc, un autre élément sur lequel je n'insiste pas et qui a été souligné par M. Roussillon, c'est qu'effectivement, un des éléments étonnants qui traduit bien la fragilité et l'immaturité du fonctionnement psychique humain, c'est que finalement, beaucoup de victimes ont l'impression à un niveau affectif, même si elles savent que c'est faux, qu'elles sont les seules ou les seules à avoir vécu cette histoire. Beaucoup de victimes, vous l'avez entendu comme moi, disent finalement, je pensais que j'étais la seule personne au monde qui subissait un peu cette agression sexuelle de la part d'un père. Alors, au niveau aussi des impacts, il y a, bien sûr, ça a été dit, j'insiste pas, le traumatisme du sexuel qui vient trop tôt, du sexuel qui vient dans la prépuberté, qui est une des traces fondamentales des séquelles qu'on a chez des victimes d'agressions sexuelles. Mais en même temps, là aussi, je me dis comment digérer, comment, au fond, détendre, déminer l'intensité du traumatisme sexuel, si ce n'est pas d'une certaine manière en l'affrontant. Et là aussi, on va le voir, souvent quand elles ne peuvent pas le faire seules, il y a une pertinence un petit peu de la technique de groupe ou d'autres peuvent justement en parler plus facilement alors qu'elles-mêmes, comme elles le disent, en sont incapables. Mais ça a été dit aussi, ce qu'on voit nous qui écoutons de façon longitudinale beaucoup de victimes d'agression, parfois ce qui est le plus douloureux à moyen ou long terme, et là aussi beaucoup d'entre vous sans doute l'ont écouté, l'ont entendu, c'est un traumatisme plus de l'ordre d'une blessure narcissique. Moi, j'appelle l'humiliation d'avoir subi l'emprise, qui rappelle effectivement les textes, par exemple, que la psychanalyse a développés sur la passivité psychique. Qu'est-ce qui est douloureux pour l'être humain? C'est de vivre des situations de passivité. Et parfois, on n'en revient pas. C'est si vrai que c'est un des ressorts un peu de certains rêves traumatiques répétitifs, comme si le sujet essayait de vivre une nouvelle fois la situation douloureuse, mais en s'en dégageant. Et là, on voit aussi dans l'écoute des victimes l'apparition de ces rêves où justement elles ne sont pas passives, contrairement à la situation qu'elles ont subie, elles se dégagent, elles arrivent à résister à l'agresseur ou elles arrivent à exprimer physiquement, dans le scénario du rêve, une violence chez l'agresseur. Donc, et dans mon expérience, ce traumatisme de l'humiliation d'avoir subi l'emprise est parfois plus cristallisé, plus difficile à déminer que le traumatisme en rapport avec la chose sexuelle à proprement parler. Et bien sûr, puisque j'ai pris comme type de description une adolescente victime de son père, il y a le traumatisme d'avoir subi ça dans la filiation. Donc, au fond, beaucoup de victimes adolescentes disent « Pourquoi moi? Pourquoi mon père? Comment un père veut faire ça ?» Et d'ailleurs, ça a été le début de ma réflexion quand j'étais jeune psychiatre sur les pères incestueux. J'avais face à moi, je m'en souviens encore, une adolescente qui n'avait aucun signe clinique après donc quelques semaines, qui avait un petit ami qui avait une sexualité qui apparaissait épanouie à l'évaluation clinique. Et donc, comme j'étais plus jeune, j'étais surpris de voir aucune symptomatologie clinique, alors que dans ce que j'avais appris, mais qui me disait finalement, vous voyez, ce qui me choque, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un père peut faire ça. Donc au fond, ce qui était la trace traumatique d'avoir subi l'inceste, c'est la difficulté à penser, la difficulté à comprendre pourquoi, finalement, un père peut se mettre en situation de faire ça, ce que j'appelle, moi, le traumatisme dans le cadre de la filiation. Et puis, bien sûr, et là, c'est intéressant, en situation professionnelle, les victimes sont entourées de proches, de professionnels, qui peuvent parfois avoir des attitudes ou des questions qui peuvent être contre-productives. Par exemple, la question qui a l'air banale, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, peut être sans problème, mais elle peut être vécue de façon esthésique par la victime. Pourquoi? Parce qu'effectivement, parfois, certaines le vivent comme si on avait l'air de dire que, finalement, elles auraient pu, elles auraient dû, ou même il y a eu peut-être une espèce de passivité un peu curieuse qui fait qu'elles ont subi pendant des mois et des années la situation traumatique. Et ça, vous voyez qu'on peut l'étendre. C'est pas vrai que dans les situations familiales. C'est vrai en entreprise, c'est vrai avec le harcèlement, c'est vrai avec des situations professionnelles où souvent les victimes mettent beaucoup de temps à en parler. Et donc, c'est vrai que c'est plus subtil de demander « Est-ce que tu n'as pas pensé le dire ?» Donc, on y... Et alors, évidemment, on retrouve cette difficulté à évoquer les histoires traumatiques, notamment qu'on est dans une sphère privée, familiale, mais aussi, c'est intéressant pour nous, institutionnelle, un peu c'est le problème un petit peu de souffrance dans le milieu du travail, et on voit effectivement que la difficulté à dire est souvent surdéterminée. Donc, bon, là, comme j'ai pris là, toujours le même type de description, violence physique du père, peur des menaces, difficulté à dire aussi, plus l'enfant est petit, peur de ne pas être cru, donc... qui avait déjà bien souligné par Ferenzi, peur de ne pas blesser la mère aussi, donc dès que la victime grandit un peu, il y a cette crainte, un peu cette intuition de comment va réagir la mère. Certaines victimes, on le sait déjà, même comme veulent protéger leur mère, et puis certaines ont une ambivalence par rapport au père. Certaines m'ont dit, ben, finalement, au fond, j'aurais voulu qu'il arrête sans que j'aie à le dire. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à plusieurs causes, donc de livrer les choses. Et bien sûr, moi, ça me préoccupe en tant que spécialiste du médico-légal. On m'a posé le même problème dans les violences conjugales, puisque j'ai fait un rapport pour le ministre de la Parité en mars 2006. Pourquoi, dans certaines situations, c'est si tard qu'elles en parlent? Parce que c'est le plus souvent des femmes, 9 fois sur 10, en ce qui concerne des violences physiques. Mais là encore, cette compréhension, effectivement, de la difficulté à dire est un élément important, à la fois dans l'accompagnement de la victime et aussi dans la dynamique un peu d'exprimer les choses dans le champ social pour faire en sorte que les dévoilements soient plus précoces. Et c'est vrai que quand on regarde, comme moi qui suis sur le terrain depuis plus de 20 ans dans le domaine des violences sexuelles, on voit quand même qu'il y a eu un aspect extrêmement positif et un aspect problématique de la médiatisation des violences sexuelles. L'aspect positif, c'est que statistiquement, on a beaucoup de victimes qui parlent plus tôt. Et l'aspect négatif, il a été vécu par toutes les sociétés démocratiques, c'est qu'au fond, le message a fait flamber les imaginaires de certains professionnels et de certains proches, et on a eu effectivement l'hypothèse interprétative, les éléments parfois interprétatifs de certains malaises chez l'enfant, qui ont entraîné, par exemple, dans les situations de divorce, les fausses allégations, et qui sont une des racines un peu de l'affaire Boutreau. Donc on voit que en parler dans le champ social, ça modifie aussi la clinique. On a les uns et les autres des situations de victimes qui, heureusement, ont vécu moins longtemps un petit peu des agressions sexuelles répétées, mais en même temps, effectivement, parfois, il y a une espèce de médiatisation qui a un élément avec des effets problématiques. Je l'ai dit un petit peu dans le groupe de travail sur les violences conjugales. On parle de plus en plus des violences conjugales, donc effectivement, il y a de plus en plus de victimes qui vont en parler plus tôt, mais comme effectivement le thème est martelé médiatiquement, il y aura effectivement des histoires mythomaniaques d'histoires de violences conjugales. C'est dans l'ordre des choses, c'est un petit peu ce qu'il faut payer parallèlement à la médiatisation, donc il y a toujours un bon côté et un côté plus problématique. Alors, donc, peut-être en transition, en évoluant vers la prise en charge, un petit mot quand même, je sais que peut-être quelques-uns d'entre vous sont experts, sur le plan, c'est ce qu'on appelle la crédibilité du témoignage, quelques éléments d'évolution, c'est que sur la crédibilité, il y a eu le traumatisme pour les experts, je pense, d'Outreau, c'est-à-dire qu'au fond, cette pratique expertale qui a été poussée à devenir pour le magistrat parfois comme un décodeur de crédibilité du témoignage, avec des histoires expertales de plus en plus compliquées. Quand j'étais jeune expert, pratiquement toutes les histoires étaient vraies et les enfants étaient quand même prépubères. Et puis, là aussi, ces dernières années, avec la médiatisation des problématiques d'agression sexuelle, on a eu affaire, nous experts, à des enfants de plus en plus jeunes. Et donc, il y a même des enfants... Moi, je refuse, je dis c'est de la pédiatrie, il n'y a pas du tout de pédopsychiatrie. Et donc, comme les experts n'étaient pas assez préparés, finalement, assez, on va dire, n'avaient pas de théorisation, un petit peu, chacun faisait un petit peu à sa main, si j'ose dire, sur la crédibilité, il y a eu quelques dérapages. C'est parce qu'aussi, dans la pratique, moi qui ai travaillé de longues années pour la Brigade des mineurs, par exemple, entre 2000 et 2005, c'est qu'il y avait un très grand nombre de situations où il n'y avait rien. Il y avait un entourage, une mère, un proche, un professionnel qui pensait que, mais in fine, en première évaluation, il n'y avait rien. Donc là, on a vu une évolution un peu du travail expertal. Alors, comme on est en France, on a essayé une solution magique. On a essayé de faire disparaître le mot de crédibilité, mais les expertises continuent. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, je pense, c'est avoir une méthodologie de l'expertise qui est prudente, où il faut au maximum citer, d'ailleurs ça peut servir pour les certificats de tous les praticiens, simplement citer, décrire les émotions, décrire éventuellement le travail psychique un petit peu dont parle la victime supposée, donc décrire bien sûr le retentissement clinique et psychologique, et puis faire une discussion médico-légale où on essaie d'argumenter sa propre position, ce que j'appelle le saut interprétatif. Et donc l'expertise est finalement deux mouvements. L'un qui est finalement simplement de noter, de décrire tout ce qui nous semble pertinent, et puis l'interprétation médico-légale, donc de l'expert, ce qui permet aux parties, donc peut-être, de ne pas en déduire la même chose. Donc il y a une espèce de rigueur dans la méthodologie de l'expertise qui finalement survient aussi après un traumatisme pour les experts qui a été le traumatisme d'Outreau, où il faut bien reconnaître qu'un grand nombre se sont plantés, y compris des gens qui avaient une solide formation. Alors, on va glisser maintenant vers les stratégies thérapeutiques et bien sûr, quelles sont les différentes manières de digérer, métaboliser, disait-on, le traumatisme, et on voit effectivement que les deux voies, ben, de tout temps, la psychanalyse les a bien décrites. Dire il faut effectivement déminer, décharger le quantum d'affect qui est lié aux histoires traumatiques, et là on peut faire un arrimage. Est-ce que les thérapies verbales y arrivaient toujours? Est-ce qu'il ne fallait, pas y avoir plus de méthodologie pour finalement désensibiliser, décharger les quantums d'affect liés aux histoires traumatiques? Et donc on voit que finalement ce qui s'est un peu détendu, mais effectivement ce débat parfois passionnel entre thérapie cognitivo-comportementale et thérapie de sensibilité analytique est finalement un mauvais débat, et finalement c'est des conflits, on peut dire, de série B. On pourrait dire même que dans l'absolu, je pense que ce qui bénéficie à beaucoup de sujets, c'est les deux sensibilités thérapeutiques. Des thérapies qui portent sur le sens, qui portent sur le vécu, et des thérapies du désapprentissage. Profondément, ces deux types de techniques d'accompagnement thérapeutique sont pour moi profondément complémentaires, et même il est pertinent, de mon point de vue, ça c'est un des éléments que je développe dans le médico-légal, c'est que souvent, n'en déplaise aux puristes, il faut associer des techniques différentes, à la fois dans la prise en charge des victimes et dans la prise en charge des auteurs. Parce que c'est une symptomatologie parfois complexe, il y a toute une pertinence de l'association des techniques. Alors c'est vrai que certains d'entre nous, on a des techniques fétiches, c'est bien, c'est pas un problème, mais peut-être est-ce que le patient, lui, n'aurait pas besoin de rencontrer des psychiatres ou des psychologues ou des psychothérapeutes qui ont des techniques un peu différentes, surtout, comme vous voulez, parce que quelle est la réalité de la prise en charge des victimes en France aujourd'hui? C'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont bien, tant mieux, avec nos accompagnements, ben, Byzance, mais aussi, vous en avez comme moi, il y a des victimes qui vont mal, malgré nos soins. Donc il faut quand même qu'on se pose des questions. Non, en se culpabilisant, puisque c'est probablement leur fonctionnement psychique qui est un peu rigide ou figé ou cristallisé, mais quand même, est-ce que finalement, ce qui n'est pas, je dirais, la bonne pratique, c'est d'offrir à la victime toutes les techniques possibles? Peut-être, effectivement, ce n'est pas celle de tel thérapeute qui lui convient, mais celle d'un autre. En tout cas, je pense que le fait que quelqu'un n'évolue pas malgré un processus thérapeutique doit poser problème. Alors moi, ça me pose un problème dans le cadre du médico-légal, enfin, c'est pas le plus important, mais dans l'absolu, dans certaines questions qui sont secondaires, bien sûr, par rapport à la santé mentale des individus, mais qui sont l'indemnisation, un système où il y aurait une évaluation à T0, un espace thérapeutique et une évaluation à T plus X serait beaucoup plus dynamique, un petit peu, en tout cas, pour la société, dans la logique de l'indemnisation. En tout cas, plus profondément, puisque ce qui nous intéresse, c'est que les gens qu'on accompagne aillent mieux, c'est que peut-être il faut associer les techniques. Alors, il y a un autre élément extrêmement important qu'on va retrouver dans les victimes qui sont résilientes, c'est qu'effectivement, la liaison, finalement, c'est un des éléments forts, moi, que je garde de ma pratique analytique classique quand j'étais plus jeune, c'est qu'en fait, dis-moi comment tu formules ce que tu as vécu et je te dirai à quel point tu souffres. C'est-à-dire, l'être humain, on souffre de représentation, on souffre de pensée. Et là, regardez comment, finalement, qu'on le veuille ou pas, la victime a une auto-lecture, une auto-théorisation. Elle est aussi dépendante du discours de l'entourage. Et là, je fais un arrêt d'image. Qu'est-ce que j'observe dans l'entourage des victimes d'agression? Deux attitudes qui sont toutes deux discutables. Une, je ne lui en parle jamais parce que ça reste angoissé. Hein, une espèce de précaution après l'histoire. Non, finalement, je ne fais surtout pas de gens en parler tellement un petit peu ça va la déstabiliser. Renforcée parfois par le discours de la victime elle-même, qui dit « j'ai pas envie d'en parler ». Et l'autre comportement discutable de l'entourage, c'est en parler tout le temps. Hein? Donc, on voit là que l'importance de l'entourage et le discours du thérapeute, je le dis très librement, il y a des gens ici de ma génération, je pense qu'à un moment donné, le discours sur le traumatisme, au niveau, je le dis au niveau social, de façon très libre, était un peu trop fataliste. Je le dis au courant analytique, pas à la théorie analytique elle-même, aux gens qui parlaient d'analytique. La théorie est beaucoup plus complexe, mais finalement, c'était un discours assez fataliste. Le trauma, et ça se répète de génération en génération, on ne peut pas en sortir et ça va être toujours cristallisé. Vous trouvez que c'est optimiste ? Bordel. Donc, le discours analytique, dans sa partie culturelle, pas dans sa théorisation profonde, parce que la théorie vaut toujours mieux que ces rejetons, on va dire, sociologiques, mais finalement, c'est vrai que le discours psychanalyticoïde était quand même assez fataliste, alors que la théorie analytique ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que, bon, moi, pour des raisons à la fois intellectuelles et puis affectives, je suis un proche de Boris Cyrulnik, je trouve que la résilience, même si certains théoriciens trouvent que ça casse pas trois pattes à un canard, sur le plan sociologique, c'est un antidote du fatalisme, du traumatisme. On peut aussi s'en sortir, bordel. Oui, je le dis avec la même force. Hein, bon, etc. Mais donc, je pense que, alors que finalement, la théorie elle-même donnait toutes les clés. Les gens souffrent de représentation. Moi, c'est ce qui m'est resté un peu de ma pratique analytique. Donc, au fond, on s'aperçoit que les victimes qui vont mal ont une théorisation de leur traumatisme extrêmement fataliste, extrêmement négatif. Je ne peux pas m'en sortir. Ça dure tout le temps. Quand on a vécu ça, ça dure toute la vie. Mais c'est ce que les gens entendaient. Hein. Donc, il y a une grande importance de discours de l'entourage, du discours des thérapeutes, du discours social. Les gens vivent dans un bain sociétal qui, au fond, va aussi, dans certains cas, cristalliser le traumatisme ou, effectivement, le déminer quelque peu. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments, on voit finalement que on a à notre disposition tout un tas de techniques et finalement, dans l'idéal, je pense que certains d'entre vous le font peut-être, c'est pas plus mal si les psys sont en réseau, c'est-à-dire en se disant, tiens, bon, est-ce que c'est d'utiliser une technique ou une autre, de varier les techniques. Est-ce que, alors la thérapie individuelle, c'est la plus classique. Par exemple, nous, dans notre consultation spécialisée, dès que quelqu'un a déjà eu une thérapie individuelle d'une certaine durée, ou qu'on l'a pris en charge dans nous-mêmes, en thérapie individuelle, et que finalement, on s'aperçoit que les choses évoluent peu, hop, on propose une thérapie de groupe. Notre évaluation est, alors que le thérapeute n'est pas en question, mais tout se passe comme si, apparemment, la victime n'avait pas assez de créativité dans son fonctionnement psychique pour finalement se dégager d'une ambiance émotionnelle et de pensée où finalement on pourrait dire elle baigne dans son traumatisme. Vous savez aussi que une des pathologies de post-traumatique des victimes, c'est de s'identifier en tant que victime. C'est-à-dire qu'au fond, tout est centré là-dessus. Hein, j'ai pas réussi mes examens, c'est parce que mon père m'a violé. Je divorce, c'est parce que mon père m'a violé. C'est-à-dire qu'au fond, des simplifications comme ça, extrêmement discutables, qui sont toutes liées à une espèce d'identification extrêmement problématique à l'être victime. Et on voit aussi que certains enfants qui sont plus productifs un peu dans des entretiens mère-enfant. Il y a aussi des situations où on peut aborder les difficultés psychosexuelles que certaines victimes ont du mal à décrire de façon précise dans l'espace individuel dans des entretiens de couple. Et moi, j'aime beaucoup le groupe quand il y a peu d'évolution. Pourquoi ? Ben parce qu'au fond, finalement, dans ces techniques de groupe, regardez comment tous les éléments que les uns et les autres on vient de théoriser peuvent être travaillés. Si une victime n'arrive pas à exprimer, à se remémorer, finalement, la scène ou les scènes traumatiques, d'autres y arrivent. Et donc, par identification, elle les vit. Certaines se vivent comme étant seul au monde avec la Restauration traumatique. Là, au fond, le groupe symbolise finalement une forme de fraternité ou de sororité, si vous passez un petit peu ce mot, donc identificatoire avec d'autres qui sont victimes. La culpabilité subjective, certaines victimes voient que d'autres n'en sont pas le lieu. On voit aussi effectivement que certaines victimes peuvent profiter, entre guillemets, de la créativité de dégagement, de la créativité de relecture d'autres victimes. Et c'est vrai que, regardez même dans la théorie d'après-coup, on dit, et la psychanalyse l'a noté, que parfois on peut être encore plus traumatisé, on peut dire secondairement, à cause d'une relecture. Mais on devrait dire aussi qu'il y a des nouvelles lectures d'avoir été victime qui font qu'on va mieux. Donc c'est en s'écoutant les uns les autres, qu'elles s'écoutent les unes les autres, que finalement il y a une évolution. Le groupe aussi est un lieu qui, dans certains cas, favorise l'expression émotionnelle. Donc je ne suis pas en train de faire une idéalisation de la technique de groupe, mais je dis que c'est intéressant à tenter quand il n'y a pas d'évolution dans les espaces individuels. Deux petites anecdotes pour terminer, qui sont d'ordre différent, mais qui montrent, en ce qui me concerne, toute mon évolution dans la prise en charge des victimes. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'à l'époque où j'ai été formé, donc, j'ai fait une analyse lacanienne avec une analyste qui ne parlait jamais, sauf de dire Et donc, j'avais au début de ma carrière un peu idéalisé que le fin du fin de la thérapie, c'est que le sujet fasse tout le boulot lui-même et qu'on l'accompagne en douceur. Bon. Donc, mais petit à petit, je me suis aperçu qu'effectivement, beaucoup de gens avaient quand même besoin qu'on les aide à interpréter, qu'on nomme les choses, qu'on devine. Et aussi, et là, c'est un peu difficile. C'est le sens un petit peu des anecdotes, qu'on les confronte, qu'on les oblige, finalement, ce qui est douloureux, parce que parfois, effectivement, les victimes disent « mais vous êtes durs avec moi », qu'on les confronte à l'histoire traumatique, qu'on les confronte à certains affects douloureux. Hein. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de dire les deux, mais la première anecdote, j'étais jeune expert dans la campagne Picarde, et donc je vais voir une victime dans une association qui était gérée par des sœurs. Et alors, on me fait asseoir, et la sœur me dit « Attendez, il faut que vous voyez la mère supérieure. » Alors, comme à l'époque, j'étais plus docile qu'aujourd'hui, donc j'attends la mère supérieure, elle vient me voir, elle me dit « Docteur, faites votre travail, mais je vous demande une chose, surtout ne lui parlez pas de l'agression par son père. » Je dis « Merde, j'étais venu pour ça. » Donc, après un temps de sidération, je dis c'est bien ma mère, j'ai compris. Et puis je commence l'entretien et tout se passe bien avec cette jeune adolescente. Alors dans ma tête je me dis bon, la mère supérieure, et je plonge, je lui parle un petit peu. Au début ça se passe bien, et puis tout d'un coup, parce qu'elle s'était rétractée, elle commence à criser, elle se lève, elle s'en va. J'étais jeune. La mère supérieure arrive. Je vous l'avais bien dit, jeune homme, vous n'écoutez pas. Après, c'est nous qui balayons un petit peu les choses. Et je vois la fille qui court dans les champs avec des sœurs en cornette qui la poursuivaient. Et j'ouvre la fenêtre et je crie « Je vous attends, mademoiselle, je suis là !» Mais j'en donnais pas large, je vous l'avoue. Et finalement, elle est venue. Et donc, ça a continué, etc. Mais vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que souvent, les entourages vont inhiber qu'on va confronter aux choses. Alors, une que je vais raconter très vite, mais j'y résisterai pas, parce que c'est une institutrice de bon niveau qui vient me voir en disant « Docteur, j'ai entendu parler de vous », je vais la raconter rapidement, et elle me dit « Mais vous savez, j'en suis consciente, ça va être long, ça va être dur, et je vais en chier. » Voilà mon premier entretien. Alors, elle me raconte, elle avait été violée par trois garnements dans une banlieue à l'âge de 18 ans, elle s'était mariée à 21 ans, et donc, avec son mari, elle n'avait pas consommé le mariage. Alors, bon, j'essaie de la faire parler, je vois un petit peu qu'elle ne peut pas trop associer un petit peu tout ce qui est douloureux. J'essaie de voir à quel point, effectivement, concrètement, les choses sont, et donc, effectivement, elle ne supporte plus même qu'il le touche. Pourquoi ? Au début, elle supportait quelques caresses, mais notre homme qui était jeune, quand il voyait qu'il pouvait la caresser, parfois dans le lit, hop, il bondissait, puis il essayait de monter dessus, et puis donc, finalement, ça ne se passait pas. Donc, de fil en aiguille, elle ne supportait rien. Bon, un peu comme, vous pensez... Bon, alors, la thérapie avance. Alors, au début, il me dit, je vais travailler sur le corps, détendre le corps, le bain, la détente, etc. Bon, puisqu'elle ne pouvait pas du tout aborder l'histoire traumatique. Donc, il y a toute une première partie, un ou deux mois. Puis ensuite, on parle, j'élargis l'affaire, on parle du jeune mari, etc. Bon, alors là, vous voyez, la thérapie se décentre. Elle me dit, finalement, il est un peu immature, j'aimerais mieux parler avec lui de ce que je ressens. C'est pas comme mon voisin, l'instituteur. Lui, j'arrive bien à parler des choses psychiques avec lui. Bon, troisième mois, quatrième mois. Et là, un jour, elle vient me dire, je me demande si j'aime mon mari. Donc, vous voyez, la thérapie se complexifie. Bon, on avance. Cinquième mois, elle se dit, les vacances arrivaient. C'est pour les couples modernes. Si on se séparait pendant les vacances, alors c'est un plan qui n'est pas toujours génial, comme certains d'entre vous ont pu l'expérimenter. En général, il y en a parfois un qui a des arrière-pensées, mais c'est très moderne. Donc, on se sépare pour voir. Donc, ils se séparent et ils prennent des vacances ensemble. Et là, elle est en vacances, elle est d'ailleurs près de Montpellier, c'est pas un hasard, et elle se rappelle ce que je lui avais dit, bon, détendez-vous, vivez votre corps, etc. Donc, elle se baigne, elle fait du cheval, elle se secoue, elle se secoue et elle glisse de cheval. Et là, elle rencontre un kinésithérapeute que je n'aimerais pas, et elle se détend. Rapport sexuel sur table de kinésie. Bon, je mets entre parenthèses le problème déontologique. Mais elle m'a dit, alors, j'ai presque l'air de raconter une blague. Elle m'a dit, j'en étais sur le cul, dès le premier coup, l'orgasme. Bon, en plus, l'homme était marié. Enfin, il gère ça de façon mature, elle est sidérée, elle revient en thérapie, elle me dit, jamais j'aurais cru que les choses peuvent changer si vite dans la vie. Mais c'est pas fini l'histoire. Elle retrouve son mari, elle se dit, finalement, je l'aime pas. Et puis, vous vous rappelez qu'elle avait un certain intérêt psychologique pour son voisin. Vous en rappelez ? Huitième mois, et un jour, elle vient me voir, elle me dit, docteur, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Je vais bien. Je suis amoureuse de l'instituteur dont je vous avais parlé, et on va se marier. Et donc, et elle me dit, voyez, finalement, quand je suis venu vous voir la première fois, jamais je n'aurais imaginé que ça aurait pu se passer si vite. Et voyez là, j'arrive à la phrase de conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le hasard de la vie ? C'est qu'au fond, pour qu'on les aide, on a besoin des fois que la vie nous aide, nous, thérapeutes. Hein, il faut aussi qu'il y ait des nouvelles expériences, entre guillemets. Il faut qu'il y ait des traumatismes positifs, enfin, je le mets entre guillemets, qui c'est d'ailleurs un bon thème de conférence, le traumatisme positif. Et alors, je me suis souvenu, et je conclue là-dessus, d'une phrase d'Ambroise Paré qui m'a beaucoup inspiré au début où je prenais en charge les victimes. Lui, il parlait des gens qui l'opéraient. Et il disait, je les pense, P-A-N-S-E, bien sûr, c'est un chirurgien, Dieu parfois les guérit. Et finalement, nous les psys, je les pense, on les aide à penser, et parfois, Dieu les guérit. Merci de votre attention.